Cours de Raveman sur Shirashirim, lundi 7 juillet 1997. Entre parenthèses, je suis absent aux États-Unis.
Migdal David Savarer Banouille le Talpiot. Alors on va essayer de traduire. Que Migdal David, comme la tour de David, que tout le monde connaît, qui est rentrée de la vieille ville, qui s'appelle Metsuda Tzion. Savarer, ton coup. Banoui, le talpiot. Banoui, construit. Le talpiot. Alors, talpiot, c'est un mot composé qui est d'un côté tel et de l'autre côté piot. Tel veut dire ce qui est élevé. Du petit monticule jusqu'au bâtiment, on appelle ça un tel. Piot, mot à mot, ce sont les bouches. Normalement, on traduit l'endroit vers lequel tout le monde se tourne. Elef Amagen, Talou Yalav. Alors ici, c'est une expression, Elef Amagen. Les 1000 boucliers, Talou Yalav, sont suspendus dessus. Kol Shil Te Agibori. Tous les carquois à Giborim défend. Si on prend la traduction de Rashi, Talpiot, c'est l'endroit du Beth Amikdash où se réunissait le Sanhedrin qu'on appelle le Lishkat Agazit. Talpiot, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde se tourne pour apprendre, pour avoir la formulation des choses. Elefa Magen Taluyala. Magen, c'est la Torah qui protège le peuple juif, c'est-à-dire les Talmid Chachamim. Kol Shil Te Agibori. On a vu que les élèves sont appelés les flèches, comme il est marqué dans Tehilim, que Chitzim Biad Gibor Ken Bnei Anouri. Que Chitzim Biad Gibor, comme la flèche dans la main du fort, Ken Bnei Anouri, ainsi en est de la jeunesse. Donc ça, ce sont les élèves, puisque le Sanhedrin était en même temps une cour de justice, c'était en même temps lui qui prenait les grandes décisions à l'Afrique, et c'est en même temps lui qui transmettait la Torah orale, donc il se composait et des maîtres et des élèves. Donc si on relit le verset, que Migdal David Savarer, ton coup, c'est Dieu qui parle au peuple juif, est comparé à la tour de David, Banouy la Talpiot, que l'on a construit comme référence, comme endroit où tout le monde se tourne. Elef Amagen Taluyalav, les 1000 boucliers, c'est-à-dire tous les Talmidei Chachamim, dépendent de lui. Kol Shilte Agiborim, et c'est là que sont accrochés, tous les carquois, des Giborim, des forts, c'est-à-dire les élèves qui étudient la Torah avec le Sanhédrin. Ça, c'est le sens du verset. Magen, tout le monde comprend pourquoi l'enseignant de la Torah s'appelle Magen, puisque c'est le ciment du peuple juif. On connaît la phrase fameuse de Rabbi Sadia Gaon, En Uma Tenu Uma Ela Vetorata. Notre peuple ne constitue un peuple que par la Torah. C'est-à-dire que le peuple juif ne constitue pas une race, il ne constitue pas une entité qui puisse être identifié différemment que par la Torah. Pourquoi le Sanhédrin? Il faut savoir que c'est d'actualité puisqu'on a lu la paracha de Korah. Le Sanhédrin, non seulement c'est l'autorité suprême, mais à partir du moment où la halakha a été fixée par le Sanhédrin et c'est fixé par la majorité, sur 71 membres qui le composaient. Lorsqu'on obtenait la majorité, à ce moment-là, la halakha a été fixée. Au point que celui qui venait discuter avec le Sanhédrin et qui avait une vue divergente, et qui après que le Sanhédrin se soit compté et voté et pris la décision, continuait à prodiguer un enseignement de la Torah contraire à la halakha telle qu'elle avait été fixée par le Sanhédrin, avait le digne de Zaken Mamré. Zaken Mamré, qu'est-ce que c'est? C'est une paracha de la Torah qui est connue. Zaken, c'est celui qui est vieux, qui a la chokhma, qui s'y connaît. Mamré, qui va à l'encontre de la parole divine. Le Hamir, ça veut dire changer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, elle a une représentation. Elle a des représentants qui sont habilités, dans un certain cadre, à fixer la halakha. À partir du moment où quelqu'un viendrait, et après avoir donné son opinion au Sanhédrin, ne soit pas accepté par le Sanhédrin, il n'a plus voix au chapitre. Je crois que c'est étonnant, parce que nous avons une idée de ce qu'on appelle la mahloket, qui est positive et pas seulement négative. Quelle est l'idée positive de la mahloket? C'est que la mahloket vient du mot le chalek, partager. Chaque enseignement peut être reçu d'une façon différente selon les acquis qu'on a précédemment, selon la forme de pensée qu'on a développée, selon plusieurs critères qui font qu'un homme n'est jamais objectif à 100%. Et au contraire, la marloquette, ça fait qu'on peut donner plusieurs avis. On voit que la Mishnah, même lorsque les avis ont été tranchés, a toujours donné l'avis, même de celui qui allait à l'encontre de la halakha. Par exemple, vous trouvez toujours Bet Shammai et Bet Hillel, bien qu'on sait très bien que la halakha est comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. On trouve toujours Rabbi Meir, bien qu'on sait que l'Alakha n'est jamais comme Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il y a, dans la Mishnah, un exposé de la Torah orale sous forme de machloket, de discussion. Et ça ne fait pas opposition à la transmission de la Torah, au contraire. Ça donne une plus grande dimension aux choses. Quelle est l'utilité de ça? L'utilité en est, parce que si un Sanhédrin postérieur se recomposer et refixerait l'halakha, pas comme l'avis de la majorité de la première époque, mais comme l'avis de la minorité. Alors à ce moment-là, ce sera nouveau l'halakha. C'est ça que l'avis de celui qui n'est pas d'accord est très important. Tout d'un coup, on voit que c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que la machloket, elle a besoin d'un cadre, a besoin d'une référence. Une machloket dans laquelle on nie la référence, ça a été marqué. Ça s'appelle Mamré. Amara, le Hanir, ça veut dire renier, renégat. Comment est-ce qu'on passe de quelqu'un tout à fait honorable qui est Bal Mahloket, c'est-à-dire qui discute, à quelqu'un qu'on peut taxer de renégat? Comment est-ce qu'on bascule? Comment est-ce que ça marche? Alors la forme est très simple. Tant que la halakha n'est pas fixée, et que... Ah, c'est pas vrai. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Tant que la halakha n'a pas été fixée, on peut discuter. Non seulement on peut discuter, c'est bien discuter. Mais le peuple juif ne peut pas exister s'il n'existe pas une référence. Et on va voir que même après que le Seigneur n'existe plus, il restera toujours la même référence. Par exemple, si quelqu'un étudie la Gemara, il verra que les sages de l'époque qui suit la destruction du temple depuis la fin du premier siècle, jusqu'au début du cinquième siècle, et qui constituent ceux qui sont cités dans la Gemara, ne prennent jamais position contre ceux qui sont cités dans la Mishnah, dont la rédaction était terminée au premier siècle. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a fixé la Mishnah, il a donné deux avis, tu peux choisir un des deux avis. Si tu te réunis en Sanhedrin et que tu as fixé selon tel et tel avis, ok. Mais s'il y a un seul avis, ou si tu as un troisième avis qui n'est pas cité dans la Mishnah, il est impossible pour les sages de la Gemara d'aller à l'encontre d'un de ceux qui sont cités dans la Mishnah, qu'on appelle les Tanaïm. La même chose pour la Gemara. À partir du moment où le Talmud a été rédigé par Ravina et Ravashi, les Chachamim qui venaient après, qu'on appelle Rabbanan, Saboraï ou les Gaonim, tout le monde ne peut qu'interpréter le texte de la Gemara. Mais de fixer un avis qui aille à l'encontre du texte de la Gemara, ça devient une chose impossible. Et pourtant, il n'existe pas de halakha qui fixe ces choses-là. La halakha du Zaken Mamré, elle est marquée dans la Torah. L'autorité du Sanhedrin, elle est marquée dans la Torah. Mais l'autorité de la Mishnah, c'est quelque chose qui vient naturellement. L'autorité du Talmud, c'est quelque chose qui vient naturellement. Le Rambam, lui, explique, dans le deuxième pérek des Ilkhot Mamré, il dit qu'on voit qu'à partir du moment où la Mishnah a été terminée, les sages de la Mishnah se sont sentis incapables de pouvoir émettre une opinion qui puisse tenir compte de toute la profondeur de l'opinion d'un Tana, de celui d'un rédacteur de la Mishnah. Donc ils se sont abstenus, ils ont pris sur eux de ne pas remettre en cause un avis de la Mishnah, de pouvoir choisir entre les avis, oui, mais pas de remettre en cause. C'est passé la même chose au moment où le Talmud a été terminé. Ravina et Ravashi, ce sont eux qui l'ont rédigé dans la forme que nous connaissons. À partir de ce moment-là, on voit que les Rishonim, c'est-à-dire ce qu'on appelle les premiers, les Gonim ou les Rabbanan Saboraï, eux ont toujours discuté sur le texte de la Gemara. Est-ce qu'il est écrit ceci? Il est écrit cela. Est-ce qu'il faut comprendre comme ceci? Il faut comprendre comme cela. Mais de dire, voilà, la Mishnah ou la Gemara dit ceci, nous disons le contraire, c'est une chose qui n'est jamais arrivée. Après, il y a une période qu'on appelle la période des Rishonim. Depuis la fin du 9e siècle jusqu'à la fin du 13e siècle. Où cette période, on appelle la période des Rishonim, qui va du Rif, Rabbi Trakel Fassi, le Rambam, Rashi, le Ramban, le Ritva, le Rajba, le Meiri, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et à partir de la fin de cette période, qui est le début de la période du Shulchan Aruch, on voit qu'à partir du moment où cette période est terminée, de la période qu'on appelle la période des Rishonim, tout ce qu'on appelle les Acharonim, les derniers, ne se permet plus de donner des avis contre ceux des Rishonim, mais se permet juste de choisir l'opinion de tel et tel Rishon, selon la majorité, ou selon les raisons qui sont fixées, dans ce qui concerne le problème. Et il en met même de même à notre époque. Aujourd'hui, personne ne se permettrait de faire fi d'un avis qui est marqué dans le Shulchan Aruch, ou dans ce qu'on appelle les Nosekelim, les porteurs des ustensiles, c'est-à-dire les grands commentateurs du Shulchan Aruch, qu'on appelle le Shach, le Taz, le Bet Shmuel, le Chakat Mechokek, qui sont les grands commentateurs de l'époque. Personne ne se permettrait de fixer la halakha d'une façon qui n'est pas marquée dans ces Meforshim. Jusqu'à notre époque, on appelle l'époque des Acharon et Acharon, où, dans des limites, qui sont ces limites-là, de nouveau, on peut discuter, les avis sont partagés, et les Machlokot peuvent exister. Ça veut dire que la Machloket, ça n'est pas le fait que je lis un texte et je dis, moi, je pense comme ça. Quelqu'un peut lire un texte, il doit d'abord amener des preuves de ce qu'il amène, que l'on peut discuter. Même s'il ne comprenait pas les avis, ne serait-ce que les avis des Acharonim qui nous ont précédés, il peut discuter et ne pas comprendre et poser toutes les questions qu'il veut, mais en ce qui concerne la halakha, on ne pourra pas la changer. Ça, c'est jusqu'aujourd'hui que c'est comme ça. C'est pour ça que l'attaque la plus facile contre le fait extraordinaire que la Torah orale puisse se perpétuer jusqu'à nos jours, sans que la halakha soit changée, ou qu'il y ait de grandes divergences dans le peuple juif, c'est de dire, hein, c'est sclérosé, il faut renouveler. Ce qui est bizarre, c'est que ce sont toujours les critiques de l'extérieur. Ceux qui sont de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui consacrent leur vie vraiment à l'étude de la Torah et à la fixation de la halakha, ceux-là n'ont jamais ces exigences-là. Donc on peut toujours dire, bon, ils ont été attrapés par le système. Enfin, c'est quand même bizarre qu'en 2000 ans, il n'y ait personne qui n'ait pas été attrapé par le système, à part ceux qui se situent en dehors du système. Qu'est-ce que ça veut dire se situer en dehors du système? En dehors du système, ça veut dire qu'il y a des règles pour interpréter la Torah. Et la première règle, c'est de la connaître entière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à interpréter quelque chose lorsqu'on n'est pas, on ne connaît pas le reste. Pourquoi? Parce que tout celui qui a étudié un petit peu de Gemara sait que livrer Torah, Ashirim be makom echad, ve'anim be makom acher. La Torah orale a été rédigée de cette façon-là, que les riches dans certains endroits et les pauvres dans d'autres endroits. Qu'est-ce que ça veut dire, riche et pauvre? Ça veut dire que si je n'ai pas une référence absolue sur toute l'étendue de la Torah orale, je ne pourrais pas me dire que j'ai vraiment compris et vraiment justifié ce que j'ai appris. C'est la raison pour laquelle on préfère, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, on préfère être aidé par les Acharonim, par les Rishonim. Et même si après on pose des questions qui sont tout à fait légitimes. Il y a un homme qui est très connu, qui a vécu il y a 200 ans, qui s'appelle Rabbi Akiva Eger, que tout le monde connaît, qui a écrit plusieurs livres, où il a au moins 1000 questions sur le Talmud, dont aucune n'a été résolue jusqu'à ce jour. Et pourtant, ça continue quand même. On peut avoir des questions, et on peut continuer. On ne meurt pas d'une question. Celui qui meurt d'une question, c'est parce que la question, c'est sa réponse. Mais lorsque la question n'est pas sa réponse, alors on ne meurt pas de question, on peut vivre très bien avec des questions. On n'est pas obligé de tout savoir, mais on est obligé d'avoir une référence. Cette référence, c'est de pouvoir posséder entièrement toute la Torah orale. Ce qui fait que, même si des gens pensent ou pensaient, ou ont pensé, dans l'histoire du peuple juif, pouvoir rentrer en marloquette, c'est-à-dire émettre un avis différent de celui ou de ceux qui sont inscrits dans le Shulchan Aruch ou dans les Acharonim aujourd'hui, ils n'existent plus dans l'histoire du peuple juif. Ils n'ont pas été retenus dans la Torah orale et personne ne les étudie plus. On ne connaît même pas leurs livres. C'est des illustres inconnus. Par exemple, si je vous citais toute la liste de ceux qui, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, ont essayé d'attaquer et de discuter sur les principes du Talmud, il n'y a pas un seul nom qui est connu. Alors, ça c'est la force de ce système qui fait qu'on peut tout dire, on peut discuter de tout. Mais lorsqu'il s'agit de fixer la halakha, il y a des bornes qui sont mises. On est encore un autre type de machloket. Ce qu'on appelle la machloket, le Shem Shamayim. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Même lorsque le Sanhedrin a statué, même lorsque on a décidé d'après la majorité, pratiquement je suis obligé de me conformer à la majorité. Mais je peux ne pas être d'accord. Je peux ne pas être d'accord. Je peux dire, voilà, moi je pense que c'est erroné. Mais je n'ai le droit de le dire que si dans ma vie quotidienne, je me conforte à la majorité. À partir du moment où ma vie quotidienne, je ne me conforte pas à la majorité. Je n'ai plus droit au chapitre, puisque ma question n'est plus une question. Elle est une réponse. Et les réponses, c'est celles dont on a moins besoin, puisqu'on n'a pas de question. Celui qui a une question, il doit pouvoir vivre avec sa question. Et pouvoir se dire qu'il a peut-être raison. Pourquoi ? Parce que la Gemara elle-même dit, le principe qui est Elou Velou, Divrei Elokim Chayim. Les uns et les autres, ce sont la parole de Dieu vivant. On ne dénigre rien à une idée, on ne dénigre rien à personne. Mais en ce qui concerne le maaseh, en ce qui concerne la façon de se conduire, de procéder, là on est obligé d'avoir des critères pour que la halakha puisse se perpétuer. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui il est évident que la Torah orale n'existerait plus. Non seulement dans la Torah écrite, c'est comme ça. Mais il faut comprendre aussi pourquoi c'est comme ça dans la Torah. Tout le monde connaît l'histoire de Hillel et de celui qui est venu se convertir chez lui. Il lui dit, moi, j'accepte la Torah écrite, parce que c'est Dieu qui l'a donnée. Mais la Torah orale, c'est l'interprétation des rabbins, comme on dit. Il dit ça, les hommes, moi aussi je suis un homme, je ne suis pas obligé d'accepter. Convertis-moi. Il lui a dit, bon d'accord, mais au moins apprends la Torah écrite. Il a dit, d'accord. Comment est-ce qu'on va faire? Apprends-moi à lire. Alors il lui a pris à l'œuf, bête, qui m'a donné. Il dit, tu reviendras demain. L'homme il revient, il dit, je peux t'interroger, oui. Il lui dit, à l'œuf, bête, qui m'a donné. Il lui dit, pas du tout. Ça, c'est pas un l'œuf, c'est le guimel. Ça, c'est pas le bête, c'est le dalet. Il lui a dit, mais hier, tu m'as dit autrement. Il a dit, si tu écoutes les rabbins, t'es fichu. Il ne faut pas écouter les rabbins. Ça, c'est la Torah orale. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah écrite, on le comprend. Mais dans la Torah orale, on le comprend moins. Lorsque quelqu'un étudie la Gemara et qu'on arrive à fixer la halakha, on a l'impression qu'on peut interpréter soi-même le texte. Et on peut rester avec un texte qu'on a vu depuis 10 ans. Jusqu'à ce que vienne quelqu'un et vous pose une question auquel vous n'arrivez pas à répondre. Et qui vous dit, t'as rien compris, le texte c'est pas du tout comme ça. Il vous donne tout à fait un autre éclairage. Et ça arrive pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Qu'est-ce qui a raison? Alors, sans dire que quelqu'un ait raison ou pas raison, ça montre la modestie avec laquelle on est obligé de tenir compte du fait que même la Torah orale, après qu'elle ait été compilée, elle se transmet quand même de maître à élève. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'interpréter, de raisonner, d'éclaircir les choses qui se transmettent quand même de maître à élève. Et celui qui voudrait de lui-même étudier le texte et donner son interprétation, il ouvrirait quelques livres, il verrait vite que la plupart de ces interprétations sont totalement erronées et qu'on peut aborder le texte de tellement de façons différentes qu'on a toujours besoin d'un maître et que jusqu'aujourd'hui, la Torah quand même est toujours et est transmise de maître à élève. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Maintenant, on va demander, qu'est-ce que c'est que la machloket Shelo l'Hashem Shamaï. Il est écrit dans le Pirkei Avot, au quatrième pérec, tout le monde connaît, Eizu machloket l'Hashem Shamaï. C'est quoi une machloket l'Hashem Shamaï? C'est le machloket Hillel et Shamaï. Quelle est la machloket Hillel et Shamaï? C'est une machloket l'Hashem Shamaï, ça veut dire qui ne dévie pas de l'intention qui est celle pure d'étudier le texte. C'est ça ce qu'on appelle le Shem Shamaï. L'étude pour savoir la vérité. Quelle est la machloket chez le Shem Shamaï? Qu'est-ce que ça veut dire? Où tu trouves une machloket dont le but n'est pas de savoir la vérité? C'est la machloket Korach ve Adato. Korach et sa communauté. Alors tout de suite on doit relever qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le langage de la Mishnah. Normalement, de même qu'on dit Machloket est une discussion entre Korach, entre Hillel et Shammai, on aurait dû dire discussion entre Moshe et Korach, ou Moshe Aaron et Korach Vadato. Pourquoi est-ce que Moshe n'est pas marqué là? Ça c'est la première question. La deuxième question, il faut comprendre le texte. Toute machloket qui est le Shem Shamaim, en sofa l'itkayem, notamment, elle ne se résoudra jamais. Toute machloket qui n'est pas le Shem Shamaim, c'est-à-dire qui est intéressée par d'autres choses que l'interprétation exacte de la Torah, sofa l'itkayem, un jour, elle se résoudra. Nous, si on nous avait demandé, on aurait dit exactement le contraire. C'est quoi la machloket qui durera toujours? Celle qui est intéressée, celle qui est désintéressée, elle se résorbera. Non, la Mishnah dit le contraire. Quelle est la machloket qui jamais ne se résorbera? Celle qui est le Shem Shamaï, celle qui durera toujours. La preuve, il est le Shamaï, personne n'est encore arrivé depuis 1500 ans, 1700 ans, à essayer de résoudre qui a raison et comment est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on était obligé de faire? Majorité. Mais majorité, c'est bête. Si le bon Dieu n'avait pas prévu, avant de créer le monde, de le créer selon les systèmes de la Torah, et que donc chaque marloquette était prévu, et qu'on comprend que les choses tiennent, on dirait, il n'y a pas plus bête que quelque chose qui n'est pas résolu. Alors que Korach Vadato, ça a été vite résolu. Ça n'a pas pris longtemps que Korach n'existait plus. Pire, il est marqué dans le Pérouge, dans le commentaire du Rabbeinu Yona sur les Pirkei Avot, que plus la machloket est le Shem Shamaim, et plus ceux qui discutent pourront vivre vieux, parce qu'on leur donne Arichut Yamim, on leur donne la possibilité d'une longue vie, pour qu'ils puissent continuer à discuter le plus longtemps possible. Bizarre. Machloket Shelo Shem Shamaï, on y perd la vie, parce que comme il faut résoudre la machloket, il y en a un qu'il faut éliminer. Comme c'est marqué dans le Pérouge de Rabbeinu. On va demander, c'est bizarre que ce soit comme ça. Alors, il faut savoir que la machloket Korach Vadato, c'est pas que quelqu'un a voulu du pouvoir. La plupart des commentaires disent que Korach, il était le Shem Shamaï. D'où est-ce qu'on le sait? Il est écrit dans le Midrash, à propos de Moshe Rabbeinu, Berav Bisser ou Berav Bisrou. Il a utilisé le mot Rav dans sa discussion avec Korah. Alors Dieu a utilisé le mot Rav lorsque lui a demandé quelque chose. Il s'agit de quoi ? Lorsque Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël pour pouvoir accomplir les mitzvot qui sont inhérentes à la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit Rav lach al tosev le daber. Ne continue pas à parler, Rav lach, ça suffit, t'en as assez. Rav lach, ça veut dire que tu en as assez. Stop. Le Midrashi, tu sais pourquoi on lui a dit Rav lach, tu en as assez? Parce que lorsque Korach est venu, il a dit moi aussi je vais être. Je vais avoir une fonction pour elle, moi, de Beth Amigdash. Pourquoi vous avez tout pris? Un, il est Cohen, l'autre il est Meller. Chacun a pris quelque chose et moi j'ai rien. Moshe Rabbeinu nous l'a dit, Rav Lachem Bene Lévi, stop, ça suffit, vous êtes déjà Lévi, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a été puni. On a voulu lui montrer qu'on ne dit pas à quelqu'un qui a de l'ambition, Rav là. On ne peut pas dire à quelqu'un, ouais, tu arrives au maximum. Maintenant végète, n'en demande pas plus. L'ambition de Korach a été légitime, parce que c'est l'ambition même de la vie. Comment tuer quelqu'un plus facilement que de lui dire Rav? La même chose, mon cher Rabbeinu. Il voulait rentrer dans l'Israël, il n'a pas pu rentrer dans l'Israël. Le reste, il connaît. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Au revoir. Il était obligé de mourir avant de rentrer dans l'Israël. On tue quelqu'un quand on lui annonce Rav là. Tu en as assez, c'est sûr. Il n'avait pas le droit de le dire à quoi. Alors, si on comprend ce midrash, on comprend que ce que Korah voulait, c'était honorable. Parce que si quelqu'un veut du pouvoir, au contraire, il faut lui dire Ravla, Ravla, ça suffit. Pourquoi tu prendrais pour? C'est pas déshonorant de dire à quelqu'un, ça suffit, t'es pas avec les autres. En ligne. Donc, c'est que son ambition n'était pas une ambition de pouvoir. C'était une ambition du service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on dise chez vous, Hachem Shemaim? Si vous regardez bien Rachid, dans la paracha de Korach, vous verrez que dans le premier mot de la paracha, va Yikar Korach, Korach a pris. Rachid, qu'est-ce qu'il a pris? Deux interprétations. Il s'est pris lui-même en se mettant de côté et en voulant la Kohuna devenir Kohen. Ou alors il a pris ce qui était avec lui, il a entraîné. Donc Vaïkar Korach veut dire il s'est entraîné de côté, ou veut dire il a entraîné les autres de côté. Si Vaïkar Korach veut dire qu'il a entraîné les autres de côté, je comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire il s'est mis de côté? Peut-être que ça veut dire ceci: on a le droit de discuter avec tout le monde, on a le droit de tout vouloir, mais il ne faut pas choisir déjà ce que l'on veut avant la discussion. Si tu as un intérêt dans la discussion, c'est-à-dire, toi tu as décidé que tu veux être Kohen, tu deviens ce qu'on appelle en hébreu un tsad dans la marque, un côté. Alors qu'il n'y a aucune raison que tu deviennes un côté. Toi tu peux très bien dire, informez-moi, quels sont les critères avec lesquels on devient Kohen? Quels sont les critères avec lesquels on reste Lévi? Pourquoi tu parles de toi? C'est pas obligé de parler de toi. À partir du moment où on est soit dans, même dans l'image, on n'a plus le droit à la machloket, ça s'appelle machloket, chez l'autre, le Shem Shamaïm, même si les intentions sont les plus pures. C'est-à-dire, à partir du moment où on est sûr que tu n'as aucun intérêt dans le pouvoir, et que tu ne bénéficieras en rien du résultat de la machloket, tu as le droit de discuter et de mettre le cas d'Israël à sang et à feu toute ta vie. Ça s'appelle Mahloket, le Shem Shamaim. Quelqu'un, lorsqu'il pense quelque chose, lorsqu'il a une ambition, on n'a pas le droit de l'arrêter. On ne peut pas lui dire Rav Lach. On ne peut pas lui dire Rav Lach. C'est la raison pour laquelle, il dit Rabbi Nuna, on fait le contraire. On lui ajoute encore des jours et des années pour qu'il puisse continuer à combattre pour son idée. Mais si quelqu'un est dans la photo, c'est-à-dire qu'il représente un tsad, il représente un des côtés de la marquette, il est obligé d'arrêter tout de suite. Va te faire représenter dans ta morphologie par ceux qui n'ont aucun intérêt. C'est ce qu'on appelle être Nogéa Badavar. Nogéa Badavar, ça veut dire on a un intérêt quelque part. On peut très bien venir chez moi et me dire, voilà, prouvez-moi que dans la Torah, c'est interdit d'ouvrir le magasin de Shabbat. Et discuter pendant des années de savoir si la preuve est bonne, si c'est vraiment interdit. C'est pas vraiment interdit. Mais celui qui a un magasin et qui est ouvert le Shabbat, il est évident que la machloket ne se situe pas et qu'on ne va pas encore lui ajouter des jours pour qu'il puisse continuer à se justifier. Parce que la machloket ne doit en aucun cas être une réponse à une ambition. À partir du moment où la machloket est une réponse à une question, ou une réponse à une ambition, c'est ce qu'on appelle machloket l'shem shamayim, même si la personne, en vérité, pense à en faire plus, à vouloir s'élever. Dès qu'elle est dans la photo, elle ne doit plus avoir le droit à la machloket. Maintenant, on peut comprendre ce qu'a marqué dans Rashi. Rashi dit, vaïk, car finalement, il a fait deux choses. Lui, il s'est mis d'un côté, il n'avait pas besoin de se mettre d'un côté. Ne t'oppose pas. On peut poser des questions tous les jours. On n'est pas obligé d'abord de fomenter une révolte pour poser des questions. D'où tu sais qu'il s'est mis de côté? Parce que Vaïkar, le deuxième Vaïkar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 250 personnes. La plupart des gens, quand ils ont une question dans un métamidrash, ils n'invitent pas 250 personnes pour venir faire une manifestation pour ça. Donc d'où est-ce que je sais que Vaïkar s'est mis de côté? Parce que le deuxième Vaïkar, il y a une deuxième interprétation. Qu'il a pris les autres avec lui. Tu prends les autres avec toi. Ça veut dire que tu veux le pouvoir. Ah, tu penses que c'est le Shem Shamayim parce que tu brûlais, tu es ceci, tu es cela. À partir du moment où tu bénéficieras de quoi que ce soit, du résultat de la machloket, tu n'as plus le droit à faire partie de la machloket. Donc maintenant, on peut comprendre que non seulement on a besoin de cette autorité qui est l'autorité du Sanhedrin, mais qu'on est obligé d'avoir des gdarim, on est obligé d'avoir des barrières qui font que même si chaque opinion est valable, et on est obligé de laisser chaque opinion valable, et je vais vous dire pourquoi. Il est écrit dans le Midrash que 974 générations avant la création du monde, Dieu a créé la Torah et qu'il l'a étudiée, il l'a révisée, il l'a peaufinée de 248 façons sur chaque din de la Torah. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. 974, pourquoi pas 976? Parce que tout le monde a compris qu'à propos du verset Asher Tziva, le élève d'or, que la Torah a été donnée, le élève d'or pour 1000 générations. Et il y a 26 générations qui ont précédé le don de la Torah. Donc la Torah a précédé le monde de 1000 générations. Asher Tziva, le élève d'or. La Torah a été donnée au bout de 1000 générations. Pourquoi il y a besoin de 1000 générations? Le chiffre 1000. On va aller plus loin encore. Si on pense que le monde a 6000 ans, comme c'est l'avis de la Mishnah de la Gemara, tu as besoin de 1000 générations, oui, c'est 25 000 ans, pour produire 6000. C'est bizarre. En plus, qu'est-ce que ça veut dire 248? Vous savez que les Chachamim nous disent que l'homme possède 248 membres et que les commandements de la Torah sont là pour parfaire ces 248 membres, qui sont le nombre des mitzvot négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, dans sa divulgation. Et dans l'histoire qu'elle a fini par créer, après 976, 74 générations, et adaptée à chaque homme, dans chaque situation, à chaque instant. C'est-à-dire que chacun en a la part qu'il doit avoir. Et que la préparation du monde a duré élève d'or. Davar Tziva l'élève d'or, on dit ça tous les matins. La Torah a été ordonnée pour être appliquée après 1000 générations. 26 après la création du monde et 974 avant. Pourquoi ? Parce qu'on doit comprendre que la vie dans ce monde-ci, qui est régie par la Torah, ça n'est rien de comparable à la préparation et à la nécessité de ce monde-ci, tel qu'il est régi par la Torah. C'est comme si on disait, voilà, un peintre est en train de créer un tableau. À partir du moment où il a créé, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Le principal, c'était de créer. Après, c'est juste l'application. Qui c'est qui va le voir ? Une personne, deux personnes, ou un acheteur. Ça, il s'est liquidé. Il a travaillé tout ça pour que quelqu'un le regarde, il va le mettre de côté. C'est la même chose pour le monde. Que ça se passe, ça n'est que l'application pratique du plan d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme. Il y a une nécessité que ça se passe. Mais la nécessité que ça se passe n'a rien à voir avec la nécessité de la conception. C'est juste l'application pratique de la conception des choses. C'est comme si on disait, moi je suis là pour accomplir ce qu'on appelle son tikkun, sa avoda, son rôle dans le monde. Le temps que dure mon rôle, en vérité, ça pourrait être une seconde. C'est juste la justification des choses. Mais il n'a pas tellement besoin en vérité. Par rapport à la façon dont les choses sont institutionnées, à la façon dont les choses ont été créées, selon quel modèle elles étaient créées. C'est un passage, il faut ce passage-là. Après, c'est l'infini. Élève d'or, élève, c'est le maximum. La Torah, c'est le summum pour pouvoir régir l'infini. Ah, il y a quelques générations après, ça va durer 6000 ans. Tout ça, c'est pas grand-chose par rapport à l'élaboration des choses. On peut imaginer qu'il y a d'autres mondes. Je ne sais pas si on peut imaginer qu'il y a d'autres êtres vivants. Vivants peut-être, comme nous, peut-être pas. En tout cas, est-ce qu'il y a besoin de toutes les galaxies qu'on connaît pour produire une seule planète qui a vraiment l'air de fonctionner avec quelque chose d'intéressant ? On ne comprend pas non plus. Pire que ça, on ne comprend pas notre propre cellule. Pourquoi ? Parce qu'il y en a besoin, y a-t-il besoin encore de milliards et des milliards de fonctions de cellules ? Pour pouvoir faire marcher ça. Et pourquoi faire ? C'est-à-dire que la préparation des choses et la minutie des choses fait que on est obligé de penser qu'à chaque seconde et dans chaque situation, on a un rôle, on a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on est en train de vivre les choses qui sont préparées avec une telle minutie, dont on pourrait penser que finalement, bon, pour combien de temps ça dure, tout ça c'était... C'est-à-dire que l'élaboration des choses et la façon dont les choses se passeront après, c'est une seule et même structure. D'abord, tu vas lever fort. Après, ça durera. Ah, il y a un passage qui est le passage à la pratique. Ok. Ça, c'est juste pour traduire les choses en pratique. Mais on n'a pas besoin de plus. Ce qui fait que chacun peut bien comprendre que chaque dîme de la Torah a été adapté à l'homme de façon à ce qu'il comprenne que les choses que lui là a élaborées, elles sont tellement importantes qu'on est obligé de le diriger et de le mettre dans un cadre qui est d'une minutie et qui est précis à l'extrême. Une fois quelqu'un m'a dit, voilà, pour écrire une mezouza, qu'est-ce qu'il faut de texte? Combien il a fallu que des gens élaborent des halakhot et savoir commencer pour écrire une simple mezouza? Je donne un exemple. Vous savez que la mezouza doit être écrite que sidra, c'est-à-dire une lettre après l'autre. Selon le sofer, quelquefois commence par la fin de la lettre, pas obligé de. Et puis on ne sait pas où la fin de la lettre est, le début de la lettre. Il veut écrire un vav. Un vav. Il a d'abord écrit un yud, il s'est arrêté. Il peut continuer, ou il change la lettre, c'est une correction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au monde qui est capable de résoudre ce problème. C'est des livres entiers qui sont écrits dessus. J'ai fait le Yud-Yuei. Que Sidra, qu'est-ce que ça veut dire écrire que Sidra? Est-ce que quelqu'un est capable de d'écrire et de préciser que veut dire écrire lettre après lettre? C'est-à-dire que les lettres de briques sont composées de différentes lettres. Donc avant d'écrire, j'en ai écrit au moins trois autres. Quand oui, quand non. Encore une fois. Je vais écrire le Aleph. J'écris d'abord un Yud, ensuite je mets une barre. Maintenant le Yud qui est là, c'est une erreur. Donc en écrivant après la barre, j'efface le Yud, ça devient un Aleph. C'est permis ou c'est pas permis? Disons qu'on est obligé de dire qu'il y a au moins un millier de personnes qui ont passé leur vie entière là-dessus. Ça c'est la mezouza. Je vous passe les tirs. Ah, j'en ai dit, mais c'est dingue ce truc-là. Sur la même personne, elle irait chez un médecin, ou elle irait chez un chimiste, et lui montrer comment il fait son corps, comment il fait la nourriture qu'il mange, comment on peut trafiquer les gènes, comment on peut changer les choses, comment avec une seule manipulation, on peut faire quelque chose d'énorme, il comprendrait que toute la nature est écrite comme ça. D'avoir tziva le lèvdo. L'autre, c'est pas un truc. Ce qui est élaboré, c'est élaboré avec une telle minutie, avec de tels détails, qu'on ne peut comprendre ces détails-là que si on comprend qu'elle est là pour régir des milliards d'hommes et que chacun peut avoir son rôle et à chaque instant, à chaque seconde, peut savoir s'il fait ce qu'il faut faire. Selon ce que la Torah lui dira. À partir de ce moment-là, on peut comprendre comment les choses se dégagent. Donc le gars qui nous vient, qui nous dit, bon, ça suffit, tout ça, c'est des quadrisections capillaires, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est qu'il n'a pas compris comment la Torah s'articule. Chaque dîme de la Torah, il a mis l'interprétation. Je vous dis, écrire, on ne sait pas ce que c'est. Si j'ai quelqu'un en français, il faut écrire selon un ordre, ça ne veut même pas ce que je veux dire. Et on va faire tout un Shulchan Aruch pour savoir ce que veut dire l'ordre. Il en est de même pour chaque halakha. À partir de ce moment-là, on doit pouvoir comprendre que la minutie, dans le détail, c'est pas une question. Parce que les gens croient, bon, ça c'est pour nous enfermer dans les petits détails, comme ça, on pense pas aux grandes choses. Parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que dans la vie c'est comme ça. Parce que tout est comme ça. Parce que celui qui s'imagine que les choses sont telles qu'il les voit, parce qu'il n'a rien compris du tout. Et si ce n'était pas comme ça dans la Torah, elle ne correspondrait pas du tout à la manière dont est fait le monde. pour ça que la machloket shelo le Shem Shamayim, c'est quelque chose qui est totalement à côté du problème. C'est utiliser sa pensée, utiliser ses dons, utiliser ses possibilités. Même si l'intention est bonne, je dois d'abord renoncer à ce que je pourrais avoir de ça pour pouvoir accéder à la propreté du savoir. Parce que le savoir aussi a besoin de propreté. Parce que de même qu'on a vu que c'était comme ça dans chaque din de la Torah, de même c'est comme ça dans la nature, c'est comme ça dans la pensée. Ça veut dire qu'un mot, une pensée, elle a une telle minutie dans les réactions qu'elle peut provoquer, dans les acquis envers lesquels elle fait une référence, que c'est quelque chose qui est tellement complexe et tellement multiple qu'il n'y a que celui qui parle et dont il ne pense pas que ce soit important ce qu'il dit, qui pense que les choses ne sont pas faites d'une telle minutie. Vous savez que nous pensons la plupart du temps par machal. Machal, ça veut dire qu'on a une référence à des acquis. Parce que ce que nous appelons l'intelligence, en gros, on doit pouvoir le diviser en trois. Il y a d'abord la référence aux acquis. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait bénéficier de l'expérience ou de la connaissance acquise. La deuxième chose, c'est l'adaptation. C'est celui qui sait se mettre en rapport avec les choses et de ne pas être victime de tout ce qui ferait qu'il est inadapté aux choses. C'est-à-dire de chercher l'essence des choses pour pouvoir être adapté. Ça, c'est les deux principes. La troisième, c'est l'imagination. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des acquis, il ne suffit pas de s'adapter pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir imaginer des choses avec les acquis qu'on a et selon ce qu'on s'est adapté à la forme de pensée qu'on est en train de manipuler. On est obligé d'aller de l'avant, on est obligé d'inventer. Ça, ce sont les trois formes d'intelligence qu'on comprend aujourd'hui. Ça veut dire que le verbe, le mot, le raisonnement, il a une importance telle, et il peut avoir une résonance telle et tellement différente chez chacun, qu'on peut tout faire avec un mot, on peut tout faire avec une pensée. Il y a exactement la même minutie dans le verbe, dans la pensée, dans la façon qu'on a de s'exprimer. Celui qui ne remarque pas, c'est parce qu'il se sert de la pensée, d'une façon où il manque une des formes d'intelligence. Donc la façon qu'on a de comprendre les choses, elle peut être infinie. On est bien obligé de rédiger les choses. Donc on en arrive à des machloket. C'est-à-dire que la machloket, c'est quelque chose de saint à l'intérieur du peuple juif. Si c'est sur la même référence, si le questionnement est le même, et qu'on n'est pas nogé à Bédabar, c'est-à-dire qu'on n'a pas soi-même de lien, que la réponse soit celle-ci ou que la réponse soit celle-ci. À partir de ce moment-là, tout est ouvert. On a le droit d'aller jusqu'au bout. On a le droit d'utiliser tous les artifices et tous les articles qui sont de sa propre compétence pour pouvoir faire entendre son avis. Pourquoi ? Parce que ce qui tue la vie, en grande partie, c'est ce qu'on appelle la morale. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, tais-toi. J'entends quelque chose que je ne dois pas entendre, tais-toi. Il faut être gentil, il faut être brave, il faut être tous ensemble, il faut avoir bon cœur. Ça, c'est l'outil démagogique de ceux qui veulent à tout prix gouverner. Mais si on ne pratique pas la démagogie, au contraire, on doit forcer les gens à s'exprimer et à s'exprimer jusqu'au bout sans aucun compromis. Parce que moi, je ne peux pas, dans une certaine mesure, je suis obligé, on va l'expliquer, mais je ne peux pas, moi, renoncer à ce que je pense être vrai et être clair, et vivre toujours une double vie sous prétexte de ne pas ôter l'autre. Ah, dans quel cas je dois le faire, dans quel cas je ne dois pas le faire. C'est exactement le même principe. Chaque fois que tu es dans l'affaire, tu es notre gave d'avoir, ça te fait plaisir de toucher l'autre. C'est dans un but démagogique. T'as envie qu'on t'écoute. Fais-toi représenter par quelqu'un d'autre. Chaque fois que d'avance tu renonces à tous les avantages que tu peux avoir de ça, il faut s'exprimer. Maintenant, il faut aussi savoir ne pas tuer l'autre. C'est pour ça qu'on ne doit jamais attaquer les personnes, mais on a toujours le droit d'attaquer les idées. Et celui qui prend ombrage parce qu'il confond sa personne avec son idée, c'est que le problème est chez lui. C'est-à-dire que celui qui croit que pour shalom, par gentillesse, par mièvrerie, surtout pour qui le calme, il n'a pas le droit de s'exprimer, c'est complètement faux. Non seulement il a le droit de s'exprimer, il a le devoir de s'exprimer. Mais pas contre les gens, contre les idées. Ah, tu représentes telle et telle idée, alors tu prends tes responsabilités. Moi, je ne parle contre personne, mais j'ai le droit de parler contre toutes les idées. Je ne parle pour personne, mais j'ai le droit de parler pour toutes les idées. Il n'y a aucune espèce de Lashon Hara, de Motzi Shem Ra, de tout ce qui commence à devenir à la mode, parce que quelques-uns veulent gouverner et veulent avoir la paix, de dire clair et haut ce que l'on pense de chaque chose et sur chaque chose. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est toucher les gens. Ah, si les gens se reconnaissent à travers les idées qu'on décrit, ce qu'on peut faire, c'est la force du caricaturiste. Et c'est à lui de ne pas être un gave d'avoir, de ne pas vouloir le faire. Mais normalement, on n'a pas le droit de faire des gens des boutons sous prétexte que la machloquette, c'est quelque chose de pas bien. La machloquette, elle a toujours existé en tant que juif. Pire que ça, elle a toujours eu des dérapages. Et ces dérapages ont toujours été salutaires. Seulement, ils ont été salutaires après une génération, deux générations, trois générations, quatre générations. Sur le moment, c'était des dérapages. Après, on a toujours vu que les dérapages étaient salutaires. Pourquoi ? Parce que c'est la vie même du peuple juif. Le peuple juif n'est pas fait pour qu'il y ait une seule idée. Sinon, il y aurait une seule tête. S'il y a plusieurs têtes, c'est qu'on a le droit d'avoir plusieurs idées. Chaque idée a le droit d'exister. Et personne n'a le droit de dire à qui que ce soit que son idée n'est pas valable. Il y a une seule chose. Il faut réserver le cadre. C'est dans le cadre du peuple juif, c'est dans le cadre de la Torah que tu discutes, ou tu parles d'autre chose. Si tu veux réaménager la Torah, ou si tu veux critiquer la Torah ou discuter de la Torah, c'est un autre fort. Ça s'est fait à Athènes, ça s'est fait à Rome. Ça s'est fait partout, vas-y. Chez nous, c'est dans une autre optique. Dans une autre optique. Mais à partir du moment où c'est dans l'optique de la halakha elle-même, telle qu'elle doit être discutée, telle qu'elle doit être vécue, on ne peut faire taire personne et toute pensée est honorable. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se laisser aller dans les pièges où, surtout aux alentours de la paracha de Korach, on entend les bonnes âmes qui viennent et vous disent voilà. Et c'est malheureux, et la communauté est machlokot, et machlokot. Plus il y a de machlokot, et plus sa vie. Ceux qui sont intéressés à ce qu'il n'y en ait pas, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir. C'est bizarre que ce soit toujours les mêmes. Parce que ceux qui ne veulent pas le pouvoir, ne se plaignent jamais des machlokot. Ceux qui veulent le pouvoir, ou alors, c'est le frileux. Il y a une espèce de juif frileux qui croit. Comme il n'y a pas beaucoup d'idées, il est rassuré quand il y a beaucoup de personnes qui ont la même idée. Il ne veut surtout pas qu'on divise ses personnes parce que ça rassure. Ça lui donne chaud au cœur. Mais étudie toi-même. On n'a pas besoin de te référer à Pierre-Paul. On n'a pas besoin d'être d'accord pour pouvoir vivre. Au contraire, quelqu'un qui étudie une demi-heure par mois, alors pendant cette demi-heure, il a voulu d'être calme. Mais celui qui étudie toute la journée, s'il devait toujours d'accord avec celui qui est en face de lui, ça fait longtemps qu'il ne viendrait plus au Médonima. Parce que c'est le pire de la vie. Que de regarder autre ancien de faïence et de lui faire des sourires. On ne peut pas vivre comme ça. On est obligé de se bagarrer. Pourquoi ? Parce que chacun d'avoir une idée. Si la Torah n'avait pas été construite comme ça, elle n'aurait pas duré. À partir du moment où elle a été construite comme ça, elle est faite pour se bagarrer. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah « Vet Vav de Soufa ». L'Agmara dans le traité de Nari. Lorsqu'on commence à étudier ensemble l'Agmara, la Torah, la Mishnah, on est oivim zelzé. On a la haine et on est ennemis l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on ne pense pas de la même façon. On se heurte. C'est pas normal. On n'aime pas ça. Achina suavim. Jusqu'à ce que on devient oavim. On devient des gens qui s'aiment. Mais il n'y a pas marqué jusqu'à ce qu'on soit d'accord. c'est un long apprentissage, je peux le comprendre. On peut discuter avec quelqu'un tous les jours, se bagarrer tous les jours, mais on aime tellement ça hein, que l'un le matin on se lève de pied ferme pour pouvoir le faire. Parce que si c'était vraiment la malhonnêteté, et si c'était vraiment la haine, un juif se lève pas longtemps tous les matins à heure fixe pour aller se bagarrer avec les gens, ça fait longtemps qu'on en aurait assez. C'est ça le sens du verset, vet vav de soufa. Et c'est l'amour, en fin de compte, mais ça ne veut pas dire hein, que la machloket est résolue, au contraire, elle n'est pas résolue. En sofalit kayem. Et puisqu'elle est sofalit kayem, alors il y a un ressort qui permet d'étudier. Et si moi, je n'ai jamais le droit de dire ce que je pense, je n'ai jamais le droit de dire que ce que je pense que l'autre fait, ou que l'autre vit, ou que l'autre dit est faux, alors à partir de ce moment-là, je ne peux pas y consacrer ma vie, ce n'est pas possible. Donc non seulement ce genre de machloket, c'est salutaire, mais même les dérapages qui sont inhérents. Pourquoi ? Parce que on n'a pas toujours la grandeur suffisante pour pouvoir y détacher des choses. Et quelquefois, de vivre dans le bouillonnement, ça fait qu'on a des petits gestes, on a des expressions qui ne sont pas toujours élégantes, mais qui, lorsqu'elles sont vécues, après, le train ne porte pas du tout à conséquence. À partir du moment où on considère les choses comme ça, on acquiert une certaine liberté qui fait que non seulement on a le droit de s'exprimer, mais on a envie d'apprendre. Parce que si, chaque fois que je pense quelque chose, ça va être du Lashon Hara, ça va être du Motzi Shem Ra, je vais faire Torah Pierre ou Torah Paul, pourquoi est-ce qu'apprendre ? Pour toujours être fâché avec tout le monde, c'est pas la peine. Donc je n'ai pas intérêt, moi, à essayer de posséder du savoir, si dès que je dirais que je pense, ou que j'ai vu, ou que j'ai ceci, je fais toujours du mal à quelqu'un, on est toujours du à te taire, parce que on doit être tous ensemble, on doit être tranquille, pas de problème, pas d'histoire. La Torah n'a pas été écrite pour ça, elle est écrite pour la vie. Et la vie, c'est un affrontement. La vie, c'est quelque chose qui se discute, c'est quelque chose qui est âpre, c'est quelque chose qui est dur. Oivim, au commencement, on est des ennemis, jusqu'à ce qu'on devienne Ohavim, ça met longtemps. Et au milieu, il peut y avoir des dérapages. Et si la Torah a pris ce risque, c'est sûrement parce qu'il est salutaire. On ne peut pas étudier l'histoire pour voir que on voit que c'était comme ça. Et que finalement, les grandes machlokotes qu'il y a eu dans le peuple juif, elles ont toujours donné, bien qu'elles sont restées vivantes et vivaces, et elles ont toujours donné lieu à l'épidérapage, qui en fin de compte n'ont jamais non seulement porté à conséquence, mais en plus ont pu être même salutaires dans l'histoire du peuple juif. Donc à partir du moment où on conçoit les choses comme ça, alors on comprend en quoi le Sanhedrin, il est maguen. Et on comprend en quoi le jeune, c'est celui qui envoie des flèches. Parce que si je ne peux pas envoyer des flèches, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau tous les jours, c'est simplement que je suis obligé de rabâcher et que je suis obligé de prendre sur moi tout ce que les autres ont dit. La jeunesse, c'est les flèches. On a le droit de tirer des flèches, on a le droit de se servir des flèches, et c'est ça la jeunesse du peuple juif. Ah, ça fait mal quand on lance des flèches. C'est vrai que ça fait un peu mal. Et normalement, celui qui en lance, il en reçoit aussi. Et c'est à lui de voir si cette vie, elle peut lui convenir. C'est vrai qu'il y a quelques flèches. Chitzin ou Yadgibor, qui met à l'ori. Un jeune, il a besoin de chidouche, il a besoin de sa bouche, il a besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Il ne peut pas toujours répéter et absorber. On a besoin des deux dans la forme. On a besoin de répéter ce qu'ont dit les autres, parce qu'on n'est pas capable de tout discuter. On a besoin de se référer à ce que disent les autres, parce qu'on n'est pas capable de donner opinion sur chaque chose. Mais à un moment aussi, on a besoin de chitzin. On n'a pas seulement besoin du bouclier de choses qui nous maintient, parce qu'on est en défense et qu'on doit se construire. On a aussi besoin d'attaquer, on a aussi besoin de ce qu'on appelle le chidouche, de nouveauté. Quand on envoie une flèche, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se passe. Quand on a simplement le bouclier, il n'y a rien qui se passe. On a besoin des deux. Celui qui croit que un seul suffit, ou que l'autre suffit, se trompe. On a besoin de ces deux-là, et c'est deux choses-là qui donnent cette marloquette au Shem Shemem. Donc maintenant, on peut comprendre ce qu'il y a marqué dans le texte. Que Migdal David Savarer, Banu le Talpiot, on est obligé d'avoir un endroit vers lequel tout le monde se trouve. Tel chez Kolapiot Polyvela. Toutes les faces, tous les visages se tournent vers là. Vous savez que la Lacha aussi elle est comme ça, qu'on doit se tourner vers Eretz Israël pour prier. Celui qui est en Eretz Israël doit se tourner pour Yerushalayim. Celui qui est Yerushalayim doit se tourner vers le Talmidash. Celui qui est le Talmidash doit se tourner vers le Kodesh HaKodesh. Donc, c'est ça Talpiot. On a besoin d'un endroit de référence. C'est pour ça que le Sanhedrin est installé au Bet HaMikdash. Elef Amagen Talugala. C'est vrai que les milliers et les milliers de ceux qui ont perpétué la Torah, de ceux qui l'ont transmis, c'est eux qui ont fait que la Torah est vivante. Mais on a besoin d'un col Shilti et Agiborim. C'est là-bas que sont les carquois, c'est là-bas que sont les flèches de ceux qui sont jeunes. Ça veut dire que ça bouge et qu'on n'est pas seulement en défense, on a aussi le droit d'être en attaque. Et c'est ça qui fait la vie du peuple juif. Vous avez sûrement des questions. Allez-y.
Vous avez dit qu'on avait le droit donc d'attaquer quelqu'un sur ses idées. Et est-ce qu'on a le droit d'aller plus loin, d'attaquer sur les actions?
Les actions et les idées, c'est la même chose.
Oui.
Maintenant, il faut savoir aussi que pratiquement, il faut s'y faire attention. Je dis pourquoi. Parce que l'attaque, c'est toujours la plus facile. Et je vais vous dire comment c'est le mieux d'attaquer quelqu'un. C'est que c'est de lui dire qu'on l'attaque. Et comme il sait exactement comment on l'attaque, on va lui proposer quelque chose. Comme ça, l'avoir fait d'être Hachem Shamaï. Comme ça, il faisait le Shamaï. Moi, je te donne tout mon argument. Et toi, tu argumentes pour moi. Et tu me donnes ton argument. Et moi, j'argumente pour toi. Donc, c'est sûr que ça va être le Shem Shamaï, ça. Non ? C'est la façon d'appliquer. La plupart du temps, c'est malheureux, mais si vous proposez ça, l'autre, il vous dit non, il part. Mais quelquefois, on peut réussir aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de soutenir soi-même ses propres arguments, que les personnes ne parlent pas. Peut-être qu'il soutiendra beaucoup mieux que moi. Il aura de bonnes idées, pourquoi pas ? Chacun son tour. Quand on utilise comme ça qu'on fait. Alors c'est vrai qu'on critique aussi les actes, mais maintenant, c'est ses propres actes qu'on critique. Alors, c'est plus amusant. Là, on est sûr au moins de ne pas utiliser les personnes. Ça, c'est l'idéal, mais on vous le proposera avant.
Madame, vous avez expliqué qu'il y avait des marques-loquettes dont il était difficile de trancher, comme Bethilel et comme Shammai.
Non, on peut les trancher, mais elles existent quand même.
Moi, je l'étais. Bon, mais comme maintenant, on n'a pas ce système de Saint-Médrine qui tranche, on a toujours les marques-loquettes, donc on a celle des hommes qui disent ça, celle... on est plus ou moins accroché à des traditions qu'on connaît plus ou moins parce qu'on est Ashkenaz, séparat de tel coin, de tel racine. Donc on arrive un peu, excusez-moi, un flou total pour le simple juif qu'on peut être. Hein. Et on voit des choses dont, il manque ce côté opérationnel sur lequel on peut s'accrocher derrière.
Absolument.
Et quand il faut boire un verre, il y a quatre mesures. Quand il faut manger une matza, il y a la... Vous voyez, je veux dire...
Mais je vais vous dire la façon de résoudre ce problème. La façon de résoudre ce problème, c'est d'étudier. Parce que chaque fois que vous avez étudié, vous aurez votre idée. Et là, vous devenez indépendant. Vous comprenez ?
J'ai le droit de...
Absolument. Absolument. En ce moment, il faut voir les poskim, il faut voir comment est-ce qu'on fait. Lorsqu'on étudie un sujet, on voit tout de suite la façon dont on a envie de faire. On n'est pas obligé, ni parce qu'on est ashkenaz, de faire tout comme les ashkenazis, ni quand on est sfarad, de faire tout comme les sfarad. C'est pas vrai. On n'est pas obligé de faire. À partir du moment où on n'étudie pas, on est obligé d'avoir une référence, puisque vous posez la question par téléphone. Il faut que vous connaissiez la personne, que vous ayez un rapport avec elle. Donc on cherche les rapports dont on pense qu'ils sont les plus proches. C'est normal. Mais le mieux, c'est de se mettre au courant vraiment des problèmes. À partir de ce moment, on comprend mieux, et on voit que c'est pas si tranché, les marques ne sont pas si grandes, qu'il y a différents avis, mais on sait comment faire. C'est pas si terrible que ça. Avaler son idée, c'est pas toujours péjoratif. Pourquoi ? Parce que ça ne revêt pas toujours une importance tellement folle qu'on est obligé à chaque instant de se pourrir la vie et de faire des machlokot avec tout le monde. Il y a aussi le dimanche. Ça, c'est la première chose. Mais à partir du moment où on a une idée, on pense qu'elle est juste, on doit pouvoir un peu combattre pour cette idée-là, ne serait-ce que par la parole. On n'est pas toujours obligé d'accord avec tout le monde. Et ce n'est pas celui qui est toujours d'accord avec tout le monde qui doit être le mieux accepté. Si ça ne devient pas des midotes, ça ne devient pas des problèmes personnels, on doit pouvoir accepter que quelqu'un fasse quelque chose autrement que vous, pense autrement que vous. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Encore une fois, je parle que ça reste dans un cadre à la rythme. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, il vient de vendre, il sort son paquet de cigarettes, et vous allez lui dire, il dit, moi, dis-moi, c'est une marque-loquette. Non, c'est pas une marque-loquette, ça. Vous comprenez? Ça, c'est une agression. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc on est obligé de mener sa petite vie, finalement, quelquefois un peu seul, quand on veut aller selon son idée. C'est pas si grave. Mais on peut se ménager des plages où on se tait, on n'est pas obligé de dire toujours ce qu'on pense. Et on vit peut-être plus facilement.
Il y a des jeunes aujourd'hui qui voudraient aller vivre en Israël, faire leurs études en Israël. Ils sont confrontés à une situation en Israël. Il faut prendre une position entre être complètement religieux ou complètement laïque. Ils trouvent qu'en France, on peut vivre un judaïsme qui fait à peu près les deux. On peut... Et c'est... Je ne comprends pas comment...
Ça, c'est un problème. Ça, c'est un grand problème. Mais vous savez, de forcer quelqu'un à aller jusqu'au bout de ses idées, c'est pas toujours mauvais. Parce que le choix, finalement, ça détermine ce qu'on a au fond de soi. Pourquoi? Parce que, une fois quelqu'un m'a dit ceci, il m'a dit, vous comprenez, ici en France, on peut penser ce qu'on veut. Mais là-bas, c'est tous les jours dans le journal, on est obligé de prendre position. Donc quoi, je me suis mis d'un côté, mais je suis malheureux. Moi, je n'ai rien dit, mais je me suis demandé pourquoi il ne s'est pas mis de l'autre côté, il était malheureux. Vous comprenez? Puisque tu ne veux pas prendre position. Finalement, tu as pris position là où tu étais, et c'est ça qui te rend malheureux. Maintenant, c'est vrai qu'en Israël, les positions, elles sont très tranchées. Pourquoi? Parce que c'est une lutte politique qui dure depuis la création de l'État. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile. C'est vrai que c'est pas facile de rester en dehors de ces choses-là. Mais on doit aussi comprendre l'enjeu. À partir du moment où il y a un enjeu, on est toujours poussé à aller vers les extrêmes. C'est obligatoire. Sinon, on ne s'approche jamais de l'enjeu. C'est très bien que lorsque je lutte, si moi je suis déjà prêt à 50-50, et je parle de 50, j'en suis déjà à 25. Donc pour le 50-50, on doit lutter pour le 100%. C'est comme ici. Prenez un syndicaliste, lorsqu'il vous dit qu'il veut le SMIC à 8000 ou 9000 francs, il veut la retraite à 50 ans, il sait très bien qu'il n'aura ni l'un ni l'autre. Seulement, il voudrait essayer de pousser de telle façon que, lorsqu'il parle de 6000 francs ou 7000 francs, on le regarde à travers. Pourquoi? Parce qu'on s'est tellement habitué de parler de 9000 francs. Alors, on arrive à marchander ce qu'on veut. En Eretz Israël, c'est la même chose. En Eretz Israël, les grands de la génération après la guerre, ce sont des que pour construire. Il ne fallait pas qu'il y ait de possibilité de dérapage ni vers le milieu, ni vers le froid ou le tiède. Donc ils ont construit pur et dur. Tout le monde n'est pas capable, n'a pas la volonté de se référer à cette forme de vie-là. Il faut un petit peu d'air, il faut un petit peu de latitude. Quand on est en lutte, c'est pas possible. Donc on est obligé de prendre position. Et souvent on se retrouve dans une classe qu'on n'a pas choisie, parce qu'on n'a pas compris qu'il s'agit de lui. Et je trouve tout à fait désolant que beaucoup de gens qui partent en Israël se désintéressent de cette lutte. Qu'est-ce qu'ils pensent? Que ce que d'autres ont lutté pour eux, on va continuer à lutter pour eux. Que ce soit dans ce sens ou dans l'autre. Vous comprenez, c'est une situation confortable de dire, moi je suis au-dessus de la marque-loquette. Moi, ça m'embête là, toutes ces discussions. Mais il y a bien quelqu'un qui est en train de travailler pour toi. Tu veux bien quelque chose. Ah, tu veux rien. Il est rare celui qui veut rien, qui est d'accord avec tout. Donc il a une position. Qui c'est qui travaille pour lui? Vous comprenez? Ceux qui disent le meilleur, c'est de ne pas voter. En France, je comprends. Mais en Israël, je ne comprends pas. En Israël, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu laisses les autres travailler pour toi. Donc on est obligé un petit peu de prendre plus de positions. Mais de toute façon, c'est vrai que le tzibour étant de plus en plus grand, il y a de plus en plus de possibilités de se définir sans être obligé d'aller absolument d'un côté ou absolument de l'autre côté. C'est vrai que le temps, ça s'arrange et ça s'arrangera. Mais il faut savoir que ce sera plus longtemps un terrain de lutte. Vous comprenez? C'est comme les gens vous disent, pourquoi on se bagarre dans les synagogues, on se bagarre pas dehors? Parce que dehors, on est tous d'accord que c'est bien la voiture, c'est bien le golf, c'est bien le dimanche, c'est bien tout. C'est dès qu'on a une idée qu'on se bagarre. Donc on va pas se bagarrer dehors, on se bagarre à la synagogue, parce que c'est un monde où on passe dans un domaine d'idées, de spirituel. Et là, tu serais pour nous, c'est la même chose. Ici, tout le monde s'en fiche ce que fait l'autre. Et là-bas, tout le monde se sent agressé par ce que fait l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Ici, on n'est pas ensemble. On est ensemble parce qu'on a envie de l'être. Là-bas, on est ensemble parce qu'on est citoyen. Donc on est obligé de définir quelque chose, on est obligé de lutter pour ses idées, pour pouvoir vivre selon ce qu'on veut vivre. Celui qui se désintéresse de cette lutte, c'est ou que il est tellement fiable qu'il va d'un côté ou de l'autre selon celui qui gagnera, ça c'est pas très honorable, ou alors qu'il laisse faire les autres le travail, c'est pas bien non plus. Il faut savoir pourquoi.
Oui, je ne sais pas très bien, dans les choix qu'on fait, on a l'air poussé des femmes. Je veux dire, on n'est pas très certain des motivations pures des choix qu'on peut faire.
C'est vrai. C'est vrai. Mais ça aussi, ça vient de l'ignorance un peu. Si on sait exactement quels sont les choix, on sait exactement les raisons pour lesquelles on fera plus comme ceci ou plus comme cela. Le judaïsme, il a une notion individuelle aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une idée, d'être plus marmire parce qu'on pense qu'il faut être plus marmire, et si plus méquille parce qu'on pense qu'on veut plus méquille. Si on a bien étudié le sujet, au moins on pose un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire pour des raisons éducatives. Quelquefois, je suis obligé d'être plus méquille. Pour des raisons de Shalom Bayit, je suis obligé d'être marmire ou plus méquille, ça dépend. Chacun son truc. Donc il y a une certaine latitude dans la halakha aussi, dont on peut, je voudrais bien mettre entre parenthèses, profiter, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais dans laquelle on peut se mouvoir et qui fait que tout n'est pas figé au point que on est obligé tous de vivre de la même façon, avec la même idée, avec la même pratique, exactement avec les mêmes objets. Hein. Avant la création du monde. Au Maroc. La mitzvah, c'est ce qui est là pour que l'homme puisse se réaliser de la façon que Dieu l'a créé. Donc la Torah doit être investiguée de 248 façons qui correspondent aux mitzvot pour que l'homme puisse évoluer selon les modalités que lui demande la Torah. Ah non, ça c'est un exemple, c'est tout. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai.
Je vais poser cette question concernant les 248 mitzvot. Est-ce qu'on considère qu'elles ont un lien avec chaque membre du corps?
Absolument.
Et est-ce que quand on fait mal une mitzvah, on peut comparer qu'on est atteint sur un...
Non. C'est trop compliqué. Les choses, elles sont plus compliquées que ça.
Les 248 positifs.
Positif.
Pas
négatif. Pas négatif, ça. Il y a chez ça. Chez ça, c'est 365. Oui.
Pourquoi est-ce que lorsque la marque est opposée, il y a les chambrailles, sur quels critères sont ceux de l'aide qui ont été retenus dans ce monde-ci? Et pourquoi on dit que les critères de l'aide sont plutôt des plus quantitatifs, alors que ceux de chambrailles sont plutôt dans le qualité?
Ça, j'ai jamais entendu. Je peux pas vous dire. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la différence entre Hillel et Shammai, pour beaucoup de machloket, pas surtout, hein, pour beaucoup de machloket, c'est de voir si on voit le monde virtuellement selon la vérité qu'il agit, ou pratiquement sur le résultat des données de la Torah. Je vais vous machloket par exemple. Vous avez machloket Hillel et Shammai. Si quelqu'un a un shtar c'est une reconnaissance de dette. Est-ce qu'il est obligé d'aller au tribunal pour la faire valoir? Ou il a le droit de faire exécuter tout de suite? Parce qu'il a ce qu'on appelle un chiboud, il a une hypothèque chez l'autre. Il a dit, il dit, shtar omed digvot, lav que gavu d'ami. Un shtar, une reconnaissance de dette, qui est faite pour pouvoir faire valoir ses droits, ça n'est pas considéré comme quelque chose, comme de l'argent que tu as dans ta poche. Pourquoi? Parce qu'il y a une procédure. Il y a peut-être des avocats qui vont défendre l'autre. Toi, tu seras peut-être malade le jour du bédine. Va envisager tout ce qu'il peut faire, que finalement, tu as un papier dans la main qui ne vaut rien. Shammai, il dit, le papier vaut tant et tant. Quelle est la différence? Il y en a un qui voit. Pourquoi est-ce que j'ai pris une reconnaissance de dette? À quoi elle sert? Parce que la représentation de mon argent, elle est sous cette forme-là. Donc j'ai fait un échange. Tu me donnes une reconnaissance, je peux la vendre, je peux faire. C'est ce que j'ai. Quand il te dit, c'est vrai que virtuellement, selon la halakha, c'est comme ça. Mais, pratiquement, c'est pas comme ça. Vous avez une machloket. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Boré me oréage ou boré ma oréage? C'est vrai que le hesh, le feu, a différents aspects et qu'il n'existe pas une lumière du feu. Mais lorsque nous faisons la bénédiction, c'est sur la lumière que donne le feu. Bet Shammai vient, il dit, il faut faire boré maor hesh. Maor, ça veut dire, tu bénéficies de l'éclairage. Bet Yehi vient, il dit, maor hesh n'existe pas. Parce que ici c'est de cette couleur, ici c'est de cette couleur, ici c'est tranché, ici c'est moins tranché, plus tu avances, moins tu avances. On appelle ça me oréage. C'est vrai que si vous regardez le feu, vous verrez différentes couleurs et donc différents éclairages. Ça c'est vrai que c'est la vérité. Mais virtuellement l'éclairage, je ne parle pas de la lumière que je vois, je parle de la lumière. Et Tchamé va vous dire, boré ma oréage. C'est comme ça qu'on va faire le Motzaï Shabbat. Et pas boré me oréage. Comprenez? Il y a beaucoup de machlokot où on voit que Bet Shammai et Bet Hillel, la différence se situe, est-ce qu'on regarde les choses telles qu'elles sont décrites par la halakha, c'est-à-dire les choses selon leur vérité, selon ce qu'on les conçoit, ou selon le réel. C'est pour ça que il y a une opinion, c'est l'opinion de Rabbeinu Tam, qui dit qu'après que le Mashiach vienne, la halakha sera comme Bet Shammai. Parce que le monde sera de nouveau un monde virtuel et non pas un monde où le pratique a de l'importance. Voilà. C'est une opinion. What?
Est-ce que chaque acte peut être fait l'échelle chamanique?
C'est le but de l'opération.
C'est pas l'échelle chamanique, c'est la correspondance.
Ça ne veut pas dire que c'est rien. Ça ne veut pas dire que c'est rien, mais ça prend une importance qui est moindre. Dans les actes, on peut le comprendre. Qu'à partir du moment où je fais quelque chose chez l'on et chez le Shammai, je l'ai fait pour moi. Donc ça ne crée pas de rapport avec le bon Dieu. Donc je peux demander un salaire à personne. Je peux me faire valoir d'avoir fait avancer le monde vis-à-vis de personne, puisque c'est vers moi que l'acte est tourné. Ça veut dire. C'est ton affaire, tu fais ce que tu voulais. Maintenant, on va rendre à personne, non pas la personne. Ça n'a pas valeur d'une mitzvah, ça va avec ce que le bon lui ordonne, ce que tu as fait. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas une valeur, puisque, voilà, la Gemara dit à Marad Yuda, le hala, toujours un homme doit commencer chez le Shem Shammai, comme ça il est venu dans le Shem Shammai, parce que c'est difficile de faire le Shem Shammai. Mais il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais, si déjà, on va prendre un exemple, qui est bizarre, hein, mais malheureusement c'est un exemple vrai. Vous savez que Rahmana l'Islam, lorsque arrive une maladie ou un malheur, les gens ils ont beaucoup de bitachon dans la Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu sortir de là, Kadosh Baruch Hu ceci, Kadosh Baruch Hu. Mais avant qu'il arrive le fait, dans la vie de tous les jours, il ne parlait pas d'un Kadosh Baruch Hu plus de 5 minutes, et pour des raisons très précises. Donc ils s'imaginent qu'ils ont un grand bitachon, un grand émouna, alors qu'ils sont forcés à l'avoir un émouna. Parce que comme ils n'ont pas de solution, il n'y a que le bon Dieu. Mais le bon Dieu n'est pas là pour les gens qui n'ont pas de solution. Il est là pour les gens qui ont mis une solution et qui choisissent cette solution. Vous comprenez ? C'est un consoleur, souvent. Quand quelqu'un vient m'aider, j'ai une très grande maladie. Mais je suis sûr que le bon Dieu m'en sortira. Puis t'as intérêt parce que sinon... Vous comprenez ? Ça ne veut plus rien dire. C'est là où le problème de Shem Shamaïm. À partir du moment où c'est mon intérêt, c'est de nouveau chez le Shem Shamaïm. Parce que si j'ai pas ça, je suis fichu. Et je veux pas être fichu. Alors je commence à espérer dans le monde. C'est un grand travail que de faire entrer le monde dans sa vie. Et ça se passe pas comme ça. Donc souvent, dans une histoire, on se dit, bon, j'ai pas acheté le love, moi, ni pour le sentir, ni pour ceci, ni pour cela. C'est vrai, c'est le chemin. Donc on sait servir les choses. C'est le chemin, pas le chemin. Mais dans les choses qui sont un peu plus fines, c'est pas si facile que ça. Là, on croit qu'on est chez le chemin, on n'est pas du tout. Faites attention à ça.
C'est difficile de comprendre ça avec la sévénichma.
Non. Mais la sévénichma, c'est autre chose. La sévénichma veut dire on accepte le joug des 613 mitzvot, bien qu'on ne les connaisse pas, et au fur et à mesure qu'on les apprendra, on les applique. On a demandé au peuple juif d'accepter la Torah. Il ne savait pas ce que c'était la Torah. Donc il a accepté la Dina Asé. Maintenant, je vais commencer à étudier ce que je dois faire. C'est ça que ça fait mal. Ça n'a rien à voir ni avec la compréhension, ni avec le Shem Shem. Là-bas, c'était évident le Shem Shem.
Je
suis
Oui, bien sûr. Mais les enfants ont eu des problèmes. Donc il y a une suite à Korah.
Donc vous voulez dire que c'était quand même Shem Shamaïm?
C'était les Shem Shamaïm. Et puis,
mais quand même pas.
Il y a eu des suites pour le Bétamitage après.
D'accord, mais c'est quand même pas la référence le pauvre Korah. Ça veut dire quoi? Que l'idée, elle. Alors c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. L'idée, elle peut être le Shem Shamaïm. Mais lorsqu'on en est le premier bénéficiaire, on ne peut pas arriver à cette idée. Là est la faute. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai, mais la façon de faire, elle était mauvaise. C'est pour ça que la Rizal dit que la preuve que Korach et tous Adato ont une part dans le monde futur, c'est que les lettres finales du verset Tzadik, Katama, Yifra, qui veut dire tzadik, tzadik, katama, comme le datier, l'ifrar, il fleurira, vous prenez les dernières lettres, Korah. Ok, on vous souhaite une bonne vacances.
Merci.
Le prochain cours aura lieu le deuxième lundi de septembre, donc le 8 septembre.
Merci beaucoup, Paul, tu vois.